On en parle. L'émission conso et services de RTS Première.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans On en parle. Alors que la Confédération alerte sur de forts risques d'avalanche, hors piste, accidents et assurances sont au menu avec vous, Muriel Mera.
Oui, imaginez, je fais du hors piste, je crée un accident, je me blesse. Qui est tenu pour responsable? Mon assurance peut-elle refuser de me couvrir? On en parle tout soudain.
Et puis on va s'intéresser ensuite à l'Ozempic, ce médicament au succès fulgurant. François Jeannet, qu'est-ce que c'est au fond?
Eh bien c'est pour rester mystérieux, un analogue du GLP-1, c'est-à-dire une hormone de satiété à la base des médicaments comme, ben, vous le citiez, l'Ozempic, le Wegovy, pour traiter le diabète. Mais la molécule est devenue célèbre pour vaincre l'obésité. Les stars d'Hollywood n'en peuvent plus de vanter ces médicaments rares et difficiles à obtenir, chez nous aussi d'ailleurs, et on va en parler avec un professeur spécialiste de la question au HUG.
Et ensuite, deuxième partie d'émission, notre guichet du jour, Maya Chollet.
Oui, ce matin, nous nous intéressons à toutes les solutions pour qu'un ou une senior puisse rester le plus longtemps possible à la maison au lieu de partir en EMS. Alors que peut-on aménager dans un appartement? Comment se passe l'attribution de logements protégés? Que vous soyez proche aidant ou vous-même concerné, nos deux experts répondent à toutes vos questions.
Et dès maintenant, dites-nous au téléphone, qu'avez-vous fait vous pour retarder le plus possible le moment de l'entrée en EMS? 0800 108 208, notre standard est déjà ouvert, on est ensemble jusqu'à 10h. Bonjour et bienvenue.
On en parle. Yves Alain Cornu.
Et ce bruit, ce fracas, c'est celui d'une avalanche qui fait rage, un bruit traumatisant si on l'entend en montagne, Muriel Mera.
Oui, et la Confédération a justement alerté hier sur le fort danger d'avalanche qui existe actuellement dans notre pays. Un risque pouvant aller jusqu'à 4 sur une échelle de 5 suivant les régions. Il est donc fortement déconseillé de s'aventurer hors piste, en tout cas pas sans avoir pris les précautions d'usage, parce qu'au-delà du danger que ça représente, on peut se demander si en cas d'accident, les assurances sont en droit de nous tenir responsables des dégâts occasionnés.
Et on en parle quelques minutes avec vous, Nicolas Duc. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en droit, président de la SCOUS, la Commission suisse pour la prévention des accidents sur les descentes pour sport de neige. Alors avant de s'interroger sur les responsabilités des uns, des unes et des autres en cas d'accident, peut-être repréciser le hors-piste, bien que souvent déconseillé, n'est pas illégal pour autant, même lorsque le risque d'avalanche est élevé?
Alors je confirme, effectivement, la pratique du ski hors-piste ou du ski de randonnée n'est pas une activité qui est interdite en Suisse. Il faut simplement respecter un certain nombre de règles et prendre quelques précautions qui sont du bon sens avant de s'y aventurer, notamment lorsque le danger est élevé comme ces derniers jours.
Mais justement, quelles sont les recommandations à rappeler aux personnes qui font ou souhaitent faire du hors-piste ?
Alors la première recommandation, c'est l'équipement. Donc si on veut pratiquer cette activité, on doit être équipé avec un détecteur de victimes d'avalanche, avec une pelle, une sonde pour pouvoir porter les premiers secours et puis essayer de dégager une personne si une avalanche devait survenir. Il y a maintenant beaucoup de systèmes avec des airbags qui peuvent être aussi recommandés pour essayer de rester dans l'avalanche. Et puis l'élément le plus important de mon point de vue, c'est la formation et l'expérience. Et là, il y a beaucoup de cours de formation qui sont organisés dans les différentes stations des Alpes pour sensibiliser, former les gens à cette activité qui reste une activité sportive et qui nécessite un certain nombre de compétences comme toute autre activité sportive.
Alors avant de détailler les conséquences en cas d'accident de hors-piste, peut-être définir le hors-piste, c'est au bout de combien de centimètres au-delà de la piste balisée?
Alors si on est très strict et qu'on suit nos directives, vous avez une bande de 2 mètres à côté des pistes balisées qui est encore sécurisée par les entreprises de remontée mécanique. Et à partir du moment où on quitte cette bande de 2 mètres, on est déjà dans du ski hors-piste.
Et par rapport donc aux risques et aux conséquences, admettons que j'ai pris toutes les précautions d'usage, mais je suis quand même victime d'un accident alors que je fais du hors-piste. Je me casse la jambe, il faut appeler les secours. Quels sont les risques de voir mon assurance réduire mes prestations?
Alors, dans le cas de figure que vous évoquez, où vous avez pris toutes les précautions, donc on parle l'idée que vous avez étudié l'itinéraire, que vous vous êtes renseigné sur le bulletin d'avalanche, vous avez peut-être pris contact avec le responsable de la sécurité du domaine pour qu'il vous dise où vous pouvez aller, et qu'un accident arrive, Dans ce cas de figure-là, il n'y aura pas de pénalité particulière de l'assurance, puisque le ski ou le ski hors piste est une activité sportive comme beaucoup d'autres, et si on la pratique de manière raisonnable et en prenant un certain nombre de précautions, il n'y a aucune raison qu'une compagnie d'assurance réduise ou refuse de couvrir le cas.
Mais admettons que j'ai fait tout ça, mais que malheureusement j'ai pas le niveau de ski suffisamment élevé pour aller faire du hors-piste. Là, il se passe quoi ?
Alors là, on entre dans la nuance. Quand on s'est parlé pour préparer la mission, je vous ai dit que la réponse préférée des juristes, c'était ça dépend. je vais vous la donner un peu comme ça aujourd'hui. Si la compagnie d'assurance arrive à prouver véritablement que la personne qui a pratiqué cette activité n'avait vraiment pas le niveau et a réalisé ce qu'on appelle techniquement une entreprise téméraire, là, des pénalités qui peuvent aller de la réduction, voire jusqu'à la suppression de la couverture d'assurance pourraient entrer en fonction, mais ça va être une bataille d'experts parce qu'il va falloir, pour la compagnie d'assurance en particulier, prouver que la personne n'avait véritablement pas le niveau pour pratiquer cette activité. C'est pas si évident que ça.
Même si on était avec un prof de ski, enfin quelqu'un en qui on a confiance et qui nous avait dit qu'on pouvait le faire.
Alors, si on est accompagné par un professionnel des sports de neige, que ce soit un professeur de sport de neige pour les parties du domaine skiable qu'ils peuvent, ou hors du domaine skiable sur lesquelles ils peuvent évoluer, ou même en ski de rando, ou un guide de montagne pour certaines pentes, parce que celles-ci sont réservées aux guides de montagne si on est accompagné. Là, les choses vont être un tout petit peu différentes, puisque le guide ou le professeur de sport de neige va a priori prendre une position de garant, puisque c'est lui qui prend la responsabilité de vous emmener, et puis... comme je le suis aussi, c'est la question qui se pose, c'est plutôt de savoir si parfois on ne doit pas dire non à son client. C'est pas toujours plaisant parce que les gens viennent dans les Alpes pour pratiquer une activité un peu sympa et fun, mais parfois ça fait aussi partie du devoir de garant que de dire non. Donc sur le fond, si on est accompagné, en principe, s'il devait se passer quelque chose, on va aussi regarder si le professeur de sport de neige, le guide de montagne, a lui respecté les règles de l'art et pris toutes les précautions, et pas seulement l'usager.
Nicolas Duc, autre cas de figure. Cette fois-ci, je déclenche une avalanche en faisant du hors-piste. Une coulée arrive sur la piste, blesse un skieur. Qui est tenu pour responsable ? Moi, la station ?
Alors ça, c'est un cas qui s'est malheureusement présenté quelques fois au cours de ces dernières années. Je peux vous donner une réponse assez précise, puisque il y a deux dossiers qui ont été tranchés par les tribunaux suisses. Dans ce cas-là, ça va être délicat et pas très agréable pour l'usager ou le skieur, la snowboardeuse ou qui a déclenché l'avalanche, puisque si il déclenche une avalanche en pratiquant le hors-piste alors que le danger est élevé comme ces derniers jours et que cette avalanche finit sur la piste, dans le dossier dont je parle, c'était un dossier valaisan, eh bien finalement les usagers qui ont déclenché l'avalanche, ils ont été condamnés pénalement pour entrave à la circulation publique. Donc là, on est quand même dans des choses assez sérieuses. Et comme ils ont été condamnés pénalement, eh bien, du coup, il y a eu des conséquences pour eux en termes de couverture d'assurance par rapport aux frais de secours, de transport, d'évacuation des blessés et de recherche d'éventuelles personnes qui sont ensevelies.
Et puis, si ces personnes avaient été blessées, est-ce que l'assurance accident aurait pu, comme l'assurance responsabilité civile, refuser d'entrer en matière ?
Oui, hein, puisque là, on revient sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure en parlant d'entreprise téméraire ou de négligence grave, voire de faute. C'est deux cas de figure dans lesquels les compagnies d'assurance, que ce soit responsabilité civile, hein, pour couvrir les dommages qui ont été causés à autrui, que ce soit des dommages corporels en cas de blessés ou des dommages matériels en cas d'atteinte sur la piste et puis de frais de secours. Là, il peut y avoir une réduction, voire une suppression de la couverture d'assurance et idem pour la couverture assurance accident qui pourrait dire réduire, voire supprimer la couverture si on peut prouver la faute grave. Et puis quand il y a une condamnation pénale, c'est quand même un indice que tout n'a pas été réalisé exactement comme il aurait fallu le faire.
Mais ça peut aller jusqu'à, par exemple, ne pas avoir droit à une rente AI en cas de blessure très très grave.
Exactement, c'est ça. Si la personne a véritablement entrepris quelque chose de téméraire et qu'on arrive à le valider, ça demande aussi du temps. Il y a aussi, vous imaginez bien, les batailles d'experts parce que les enjeux sont importants. Comme c'est une assurance comme les autres, ça peut aller jusqu'à la réduction, voire à la suppression de la rente AI. Oui.
Peut-être un mot, puisque vous faites de la prévention hein, pour ces accidents des sports de neige. On a parlé de ski hors piste, on pense en piste balisée, mais bien sûr aussi le ski de rando, la raquette. Hein. Enfin là, il y a de plus en plus de possibilités d'aller dans la pau, hein, la poudreuse, se faire plaisir avec tous les dangers. Il y a aussi tout ce matériel pour s'équiper, des balisages pour être détecté. Est-ce que tout ce matériel supplémentaire peut donner un faux sentiment de sécurité qui finalement a un effet pervers où on ose encore plus aller faire du hors-piste parce qu'on a le matériel qui y va?
Alors, pour ma part, et là c'est une opinion tout à fait personnelle, je pense que d'être équipé et d'avoir tout le matériel, c'est une chose, c'est très bien, mais rien ne remplace la formation, l'expérience avec des personnes qui sont formées pour ça, que ce soit des guides, des professeurs de sport de neige. Il y a plusieurs associations qui proposent des cours de formation pour sensibiliser et former les gens à la pratique des sports de neige hors piste. Ce que j'aimerais dire aussi en conclusion, c'est que ça reste quelque chose de super fun et sympa quand les conditions sont bonnes et si on le fait dans un cadre tout à fait sécurisé. Donc il n'y a pas de raison non plus de diaboliser les choses, il faut juste être conscient de ce qu'on fait et le faire de manière sécurisée et avec la tête sur les épaules.
Eh bien, merci Nicolas Duc d'avoir été quelques minutes avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en droit et président de la SCOUS, la Commission Suisse pour la Prévention des Accidents sur les Descentes pour Sport de Neige. Et on vous retrouve demain dans notre guichet consacré à l'entretien et à la sécurité des équipements de ski et sport de neige. Vous répondrez aux questions de nos auditrices et auditeurs. À demain donc.
À demain et bonne journée.
À suivre dans On en parle, le médicament Ozempic fait beaucoup parler de lui, mais à quoi sert-il vraiment et qui peut en bénéficier? Dreams, Teddy Swims, l'étoile montante américaine, nominée aux Grammy Awards le 2 février dans la catégorie Best New Artist. Il jouera à Zurich le 25 février au Hallenstadion. Une petite piqûre par semaine dans l'abdomen pour garder une ligne de rêve et contrôler son poids, ça existe, François Janet, ou c'est trop beau et trop facile pour être vrai?
Eh bien, la question se pose parce que quand on parle d'Ozempic ou de Wegovy, Mounjaro ou Zepbound, on a affaire à des médicaments récents dont les vertus sont acclamées sur les réseaux sociaux.
Et pourquoi?
Eh bien parce que ces molécules, d'abord développées pour soigner le diabète, permettent aussi de traiter l'obésité avec des résultats spectaculaires. Mais ce n'est pas tout, puisqu'aujourd'hui, on leur attribue aussi des effets positifs dans le traitement de, tenez-vous bien, maladies cardiovasculaires, hépatiques, rénales, mais aussi des troubles neurodégénératifs de type Parkinson et Alzheimer, voire même une efficacité contre des dépendances comme l'alcool ou la nicotine. Bon, certaines études cliniques n'en sont qu'à un stade préliminaire, c'est vrai, mais les entreprises danoises et américaines qui produisent ces substances brassent des milliards de dollars et n'arrivent pas à suivre la demande.
Et pour en parler avec nous, le professeur Zoltán Pataki est en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'unité d'éducation thérapeutique et spécialiste de l'obésité aux hôpitaux universitaires Genevois. Alors ces médicaments qui semblent être révolutionnaires, on parle beaucoup de l'Ozempic, on a entendu qu'il y a d'autres noms aussi, ils tiennent vraiment toutes ces promesses?
C'est une révolution en médecine, effectivement, comme vous dites, et non seulement en ce qui concerne la perte de poids. Ce sont des médicaments, au fond, qui agissent principalement sur le centre de récompense au niveau du système nerveux central, les zones impliquées dans la régulation de la prise alimentaire et de l'appétit. Et au fond, si on parle du poids, la perte du poids avoisine les 15% avec le Wegovy, que vous venez citer, et 22% avec le Mounjaro.
Ces médicaments, finalement, ils s'adressent prioritairement à qui?
Vous avez dit, ils ont été d'abord développés pour le diabète, puis dans les études, nous avons constaté que comme effet secondaire positif était la perte de poids. Et du coup, depuis peu, ces mêmes médicaments sont maintenant disponibles pour le traitement de l'obésité, mais les études ont mis en évidence que ces mêmes molécules préviennent le développement, par exemple, du diabète de type 2 chez des personnes à haut risque, c'est-à-dire qui présentent un état de prédiabète. Ces mêmes molécules préviennent la survenue des maladies cardiovasculaires graves, et on parle de l'infarctus du myocarde, de l'AVC, donc accident vasculaire cérébral, et aussi la diminution de décès pour des raisons cardiaques, environ 20%. Elles préviennent la progression de maladies rénales chez des personnes en situation de diabète, donc cela prévient, si vous voulez, l'insuffisance rénale. Mais il y a également des études qui montrent des effets significatifs sur l'apnée du sommeil, donc une des complications également du surpoids. Et finalement, au niveau du système nerveux central, des maladies neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer par exemple, où on sait maintenant que dans des stades précoces de cette maladie, ce genre de médicaments peuvent prévenir l'évolution de la maladie et les phases tardives et graves. Finalement, les effets de ces médicaments vont au-delà d'une perte de poids simple.
Mais on a aussi l'impression parfois que, évidemment, que si on peut prévenir l'obésité et toutes les conséquences médicales qu'il peut y avoir derrière, on a déjà fait une partie du travail, ou est-ce que ça agit vraiment sur d'autres formes de ces pathologies cardiovasculaires, par exemple?
Alors, écoutez, c'est pas très clair encore aujourd'hui. Alors, il est clair que une partie des résultats sont attribués à la perte de poids, puisqu'on sait que la perte de poids améliore le diabète, améliore l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires, mais il semblerait que ces médicaments pourraient avoir des effets aussi autres, directs, sur les organes qu'on vient de citer.
On a l'impression vraiment d'un produit miraculeux. Quels sont les risques, les effets secondaires potentiels?
Alors, en général, ces médicaments sont bien tolérés. L'effet secondaire le plus courant est la nausée, surtout au début du traitement. D'autres troubles gastro-intestinaux tels que la constipation, les vomissements et les diarrhées sont moins fréquents. Bien que ces effets secondaires ne constituent pas en fait un problème de santé grave, ils peuvent contribuer cependant à la décision d'un patient d'arrêter le traitement. Et en fait, si le patient est pris en charge correctement par des professionnels, ils vont déjà lui énoncer ses effets secondaires potentiels. Et nous avons remarqué, par exemple, dans notre service, que ces effets secondaires sont beaucoup moins fréquents que décrits dans la littérature, puisque justement, avec notre approche d'éducation thérapeutique, d'une approche globale qui va au-delà uniquement de se focaliser sur le poids, nous arrivons à beaucoup éviter ces effets secondaires.
Zoltan Pataki, à vous entendre, il y a vraiment plein de vertus à cette nouvelle famille de médicaments. Tout Hollywood vante leur mérite sur les réseaux sociaux. Évidemment, ça donne envie d'aller chez son médecin sans faire prescrire. Ça devient un effet de mode. Tout le monde prescrit à tour de bras ou c'est quand même réservé à certaines typologies de forte obésité ou par exemple si on prend la perte de poids.
Vous avez parfaitement raison que les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus important et nous avons récemment analysé plus de 53 000 tweets, par exemple, sur le réseau X. Et comment est-ce que, par exemple, les messages de certaines personnalités, de certains influenceurs, des acteurs, etc., peuvent rapidement, finalement, avoir un impact sur le comportement des gens. Juste un exemple, quand Elon Musk tweet que avec l'Ozempic, il a perdu une dizaine de kilos en très peu de temps, le lendemain, aux États-Unis, tout le monde s'est rué sur ces médicaments-là et il n'en avait plus. Et c'est ce qu'on constate, en fait, que c'est un effet aussi de mode, puisque vous avez aussi des gens qui viennent nous voir, qui veulent perdre juste 3-4 kilos parce que l'été s'approche, parce qu'il y a le maillot de bain. Et clairement, ce n'est pas un médicament indiqué pour ce genre de situation, pour ce genre de situation. Ce sont des médicaments qui peuvent malgré tout avoir des effets secondaires graves. Le médecin doit évaluer chez qui il peut les prescrire et chez qui il ne peut pas les prescrire, vu les antécédents du patient, etc. Donc, il faut que ces médicaments restent dans les mains de spécialistes et dans les mains de spécialistes de l'obésité qui connaissent bien que l'obésité, ce n'est pas qu'une affaire de manger moins et bouger plus.
Et puis, il ne faut bien sûr pas priver les vrais malades d'un médicament indispensable.
Mais évidemment, quand il y avait cette difficulté de disponibilité de l'Ozempic que vous avez mentionné, donc l'Ozempic, un médicament aujourd'hui strictement réservé pour les personnes en situation de diabète, quand les médecins, certains confrères le prescrivaient pour la perte de poids, même chez des personnes non diabétiques, mais effectivement, il manquait ce médicament pour les vrais diabétiques et qu'ils ont eu une sorte de rupture de traitement. Et donc, il ne faut pas qu'on y arrive à ce genre de difficultés.
Justement, Zoltan Pataki, en Suisse, comment peut-on obtenir ces traitements? Est-ce qu'ils sont pris en charge par l'assurance maladie?
Alors, le Wegovy est pris en charge depuis par l'assurance de base, par la LAMAL, depuis le début de l'année dernière, depuis le mois de mars, si je ne me trompe pas, mais à certaines conditions qui peuvent être strictes et qui ne sont pas les mêmes, ces conditions de remboursement, que les indications médicales pour lesquelles le médecin peut les prescrire. Je vous donne un exemple. Le Wegovy, il est remboursé uniquement s'il y a un indice de masse corporelle plus de 35 kg par mètre carré, ou alors il est plus de 28, mais avec des comorbidités obligatoires. Donc la personne, en plus de l'IMC supérieur à 28, doit avoir par exemple soit un prédiabète, soit une hypertension artérielle, soit une dyslipidémie. Et en plus, ce traitement ne doit pas être associé à certaines autres molécules. Il ne faut pas que la personne déjà a fait l'opération de chirurgie de l'obésité, ou alors elle ne peut pas avoir le projet de se faire opérer, puisque dans ces cas, l'assurance ne rembourse pas ces médicaments.
Voilà, merci pour ces précisions de Zoltan Pataki sur ce traitement qui on le dit, hein, un peu miraculeux, enfin en tout cas avec plein de nouveaux effets bénéfiques, mais qui reste un médicament sur prescription médicale malgré tous les buzz qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux et qui doit faire sourire sans doute aussi aux fabricants de l'industrie pharmaceutique, mais quand même avec quelques précautions et sur certaines indications. Comme vous venez de nous le dire, Zoltan Pataki, responsable de l'unité d'éducation thérapeutique et spécialiste de l'obésité aux hôpitaux universitaires de Genève. On vous souhaite une très bonne journée.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous. Au revoir. Devant, va où
peut-être pas vraiment du passé. Trop d'ombre sur la route, je vois plus les tracés. Et je me rappelle en folie mon panel de prolo. J'ai la mélancolie du bordel en colo. Rire de tous nos sens et des heures à vanner. Insolente innocence de mes plus belles années. D'événements imparfaits, un passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur. Déconfiner l'espoir, pour continuer d'y croire, je t'envoie un faire-part. Le faire-part du mariage entre nostalgie et destin. Quand l'un nourrit l'autre, faire du futur un festin.
Je veux retrouver l'attrait de notre vie d'après. Il est temps d'entamer. Oh, où sont passées nos plus belles années?
Nos plus belles années à ce duo de Kimber Rose avec Grand Corps Malade à 8h59. On revient dans 6 minutes, on en parle, ouvre son guichet du jour. Maya Chollet, on va parler d'EMS ou plutôt de l'avant-EMS.
De toutes les solutions avant de devoir entrer en EMS, comment aménager les logements.
Peut-être de ne jamais y entrer.
Ou de ne jamais y entrer, absolument.
Comment faire pour rester le plus longtemps possible à la maison ou dans un lieu de vie plus adapté, en tout cas sans forcément passer par la case EMS. Posez-nous vos questions au 0800 108 208. Dès maintenant, le standard est ouvert ou un message vocal au 076 206 12 12.
L'heure avec RTS Première.
Vous écoutez, on en parle tous les jours jusqu'à 10h. Voici le journal de l'info, il est 9h.
Léandre Béret.
À partir de demain, Israël cesse tout contact avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Confirmation de son ambassadeur aux Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU, justement, Antonio Guterres, a écrit au gouvernement l'intimant de retirer l'ordre à l'UNRWA de quitter Jérusalem-Est d'ici demain. Pas question pour Israël d'y exercer un pouvoir de souveraineté, dit-il. Le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a alerté le Conseil de sécurité sur un dangereux précédent sur le respect du droit international.
Premièrement, les Chinois disent « peu importe le droit international, c'est nous qui décidons ». Et à mon avis, ça crée un précédent extrêmement dangereux parce qu'ils cherchent à caractériser ou à rendre hors la loi une agence des Nations Unies, criminalise en fait les organisations internationales et c'est un précédent qui peut être suivi dans n'importe quelle situation de conflit à travers le monde. Le deuxième message que ces lois disent, au fond, on veut se débarrasser de l'UNRWA parce qu'on cherche à enlever le statut de réfugié aux Palestiniens et en faisant cela, on affaiblit les aspirations pour l'autodétermination des Palestiniens et en fait, on affaiblit les chances d'une solution politique à deux États.
Benjamin Netanyahou est invité mardi par Donald Trump à la Maison-Blanche, selon son bureau ce matin. Le Premier ministre israélien avait remercié le président américain pour ses efforts dans la libération des otages israéliens à Gaza. Les rebelles du M23 et l'armée rwandaise contrôlent l'aéroport, le centre et les faubourgs de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Le sort de la ville semble scellé ce matin, avant une rencontre prévue entre les dirigeants congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Réunion aussi en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, la deuxième en 48 heures à New York, Karine Auton.
Depuis le premier conseil de sécurité sur les affrontements autour de Goma dimanche, les voix se sont faites plus nombreuses pour demander au Rwanda de lâcher les miliciens du M23. L'ambassadeur chinois a pour la première fois été explicite. Seule la Russie et les trois pays africains du conseil, Algérie, Somalie et Sierra Leone, ainsi que leur allié le Guyana, se sont refusés à désigner Kigali comme responsable. Des observateurs supposent qu'ils attendent la position officielle de l'Union africaine. Or, cette prise de position ne devrait pas avoir d'influence sur ce qui se passe à New York, selon la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba-Wagner.
Jusqu'à quand le Rwanda continuera-t-il d'abuser votre respect? Quel instrument international doit-il encore violer pour que ce Conseil prenne enfin les mesures nécessaires contre Kigali? Laisser cette crise s'enliser sous prétexte qu'elle serait un problème africain, nécessitant une solution africaine, revient à trahir l'esprit de solidarité internationale qui fonde cette organisation.
Une responsable de la MONUSCO a décrit une situation sécuritaire qui se dégrade, des cadavres jonchant les rues de Goma et les installations de la Croix-Rouge internationale étant débordées. Elle a mis en garde contre les risques d'attaques sur des bases ethniques dans l'est de la RDC. Karine Otten, RTS New York.
Et le président rwandais Paul Kagame a discuté dans la nuit avec le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio. Il a salué une conversation productive sur la nécessité d'assurer un cessez-le-feu dans l'est de la RDC et de s'attaquer aux causes profondes du conflit une fois pour toutes. L'hôpital neuchâtelois prévoit un déficit de près de 20 millions de francs pour cette année et les comptes 2024 s'annoncent pire que prévu. Le RHNE doit présenter d'ici cet été au gouvernement neuchâtelois sa feuille de route pour les 15 prochaines années. Pour la députée socialiste Anne Bramo du Boucheron, l'État doit continuer de soutenir l'hôpital public, mais la question de la palette des prestations doit être discutée.
On attend de l'hôpital public une prestation d'intérêt général et que 100% des prestations ne sont pas lucratives. Et en ça, on doit soutenir l'hôpital public pour répondre à tout un chacun sans aucune discrimination. Moi, ce qui me fait réagir, c'est certainement sur la question du volume de prestations, en tout cas de la diversité des prestations, qui sont certainement à re-questionner. Est-ce que tout est utile, sachant que les besoins de soins d'une population sont insatiables? À partir de là, je pense qu'il est raisonnable d'imaginer qu'on doit faire un arbitrage sur les prestations offertes à la population et peut-être pas partir dans toutes les prestations de niche avec l'idée qu'elles pourraient rapporter de l'argent à l'hôpital.
Nestlé va investir $1 milliard au Mexique ces trois prochaines années. Le géant suisse de l'alimentation veut augmenter sa production dans le pays, annonce ce matin de la présidente mexicaine et des cadres du groupe. Claudia Sheinbaum explique que cet investissement s'inscrit dans le cadre d'un programme gouvernemental pour notamment remplacer les importations chinoises. Un podium pour l'histoire hier soir à Schladming pour Marco Odermatt. Troisième du géant nocturne autrichien, il marque le 1000e podium du ski suisse masculin en Coupe du Monde. La victoire est revenue au Norvégien Alexander Stinolsen devant son compatriote Henrik Kristoffersen. Et Loïc Meillard a manqué lui le podium pour 1/100 de seconde. Premier de la première manche, il termine quatrième et déçu.
Il y a une grosse faute, c'est clair, c'est où je le perds le podium, mais voilà, en plus de se retrouver encore 1/100 derrière, ça fait juste mal maintenant et il n'y a aucun plaisir à cette 4e place. C'est 1/100 du podium avec une énorme faute et voilà, c'est clair, je peux m'estimer heureux d'être 4e encore, mais d'une autre, c'est frustrant de toute manière, peu importe, on peut chercher à gauche, à droite, toutes les infos qu'on a envie, mais à la fin, c'est toujours frustrant d'être 4e si proche du podium, surtout quand tu sais que, voilà, que t'as le ski pour faire bien mieux.
Loïc Meillard avec John Nicolet. Changement climatique, menace nucléaire, désinformation, c'est le tic-tac de l'horloge de l'apocalypse. Son aiguille a été rapprochée hier d'une seconde du gong fatidique par le bulletin of the Atomic Scientist. L'horloge de l'apocalypse symbolise depuis 1947 l'imminence d'un cataclysme planétaire. Le groupe de scientifiques a établi le nouvel horaire à minuit moins 89 secondes, plus proche de la catastrophe que jamais. Il devrait faire sec et soleil aujourd'hui. Les nuages élevés et de plus en plus denses reviendront dans l'après-midi. Il fera jusqu'à 10 degrés en pleine avec un vent faiblissant sur le plateau.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Avec la RTS, voyons la vie en couleur. Cet hiver, il n'est pas question de broyer du noir. Et pour nous y aider, la RTS organise un mois positif. Documentaires, films, séries, une programmation qui donne le sourire et nous offre une bouffée d'air frais face au monde qui nous entoure. Du 12 janvier au 9 février sur RTS 1 et RTS 2 et en streaming sur l'application Play RTS. On en parle. Yves Alain Cornu.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette deuxième partie d'émission. Vous avez peut-être un proche, un parent qui dépend de votre aide ou de soins médicaux réguliers, mais pour qui la question de l'EMS ne se pose pas encore. Alors ce matin, on va consacrer notre guichet à toutes les mesures alternatives justement à l'entrée en EMS, Maya Chollet.
Oui, parce que notre population vieillit. En 2050, on comptera 53 seniors pour 100 personnes actives contre 36 actuellement. Et que les EMS sont pleins. Le maintien à domicile est donc un enjeu de santé publique important et ça pose de nombreuses questions comme les critères d'un maintien à domicile, qu'est-ce qu'on peut aménager dans un appartement, comment ça se passe pour l'attribution de logements protégés, pour qui sont-ils adaptés, qui c'est qui finance, comment ça se passe avec l'accueil de jour. Donc il y a des mesures de maintien à domicile qui peuvent être parfois simples à mettre en place mais qui sont très efficaces comme la livraison de repas, des visites pour des soins corporels et ça permet aux proches aidants de ne pas s'épuiser. Donc ça c'est aussi un des grands enjeux du maintien à domicile.
Avec bien sûr des coûts aussi, la question de qui paye quoi, est-ce que les assurances prennent en charge une partie de ce maintien à domicile. On attend toutes vos questions dès maintenant au 0800 108 208, le numéro est gratuit. On a deux invités qui vous répondront jusqu'à 10h, mais dépêchez-vous parce qu'en général, c'est vers la fin que tout le monde se met à appeler et ensuite, c'est trop tard malheureusement. Donc, je vous redonne le numéro 0800 108 208. Vous pouvez aussi nous envoyer un message vocal par WhatsApp ou n'importe quelle autre application de messagerie au 076 206 12 12 ou nous écrire un email à onenparle@rts.ch. Les deux invités qui vont donc répondre à vos questions, les voici. Marie Daroxa, pour commencer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de l'institution genevoise de maintien à domicile, l'IMAD. Et à vos côtés, Tristan Gratier, bonjour à vous.
Bien le bonjour.
Directeur de Procénec Tout est Vaud, président des centres médicaux sociaux vaudois et ancien président des EMS suisses. Alors peut-être pour commencer, Marie Daroxa, quels sont les critères pour le maintien à domicile? Jusqu'à quand est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a le droit de rester à la maison?
Alors c'est pas une question de droit, c'est aussi de respecter le souhait, les besoins de la personne. C'est quand même une autodétermination aussi, même si l'avis des proches aidants est toujours important et qu'il s'agit de travailler en partenariat avec le réseau. L'idée c'est de pouvoir rester le plus longtemps possible à domicile, mais avec une belle qualité de vie et puis la meilleure autonomie possible. Donc c'est autour de ces principes-là qu'est organisée les logiques de maintien à domicile et les prestations qui sont offertes.
Et qui c'est qui décide du moment où on passe en EMS ou bien comment on peut rester à domicile, les options possibles?
Alors elles sont extrêmement nombreuses. Dans le maintien à domicile, il y a toute une palette de gradations en fonction de la perte d'autonomie de la personne, de sa dépendance. C'est pas uniquement des personnes âgées d'ailleurs. Hein. L'explosion des maladies chroniques qu'on observe montre qu'il y a un certain nombre de palettes de prestations de maintien à domicile qui deviennent de plus en plus importantes. Hein. Ça va vous l'avez nommé, les soins, l'accompagnement au quotidien, mais aussi de l'hospitalisation à domicile. Donc, j'ai pour habitude de dire que la vraie limite de maintien à domicile, au-delà de ce que pourraient dire les assureurs, parce qu'ils ont aussi leur mot à dire parfois, c'est les troubles cognitifs graves. Parce que là, on est dans des situations dans lesquelles le maintien à domicile peut devenir dangereux pour la personne elle-même, pour sa famille ou pour les soignants.
Tristan Gratier, à Procénec Tout est, c'est une question qui revient souvent de personnes âgées, de ne pas vouloir aller à l'EMS, de vouloir rester à domicile, parfois parce qu'ils vivent encore avec quelqu'un, parfois ils sont seuls, mais ils préfèrent rester chez eux. Comment vous les conseillez?
C'est une question permanente, mais vous savez, pour nos auditeurs romands, l'excellente nouvelle d'aujourd'hui, mais il y en aura plein d'autres, c'est que les politiques publiques en Suisse romande, il y a déjà 30 ans, avaient fait ce choix courageux. Ça paraît aujourd'hui assez logique. Marie Daroxa l'a très bien dit, rester le plus longtemps possible chez soi. Dit comme ça, ça paraît une évidence. Procénec Tout est a fait quand même des questionnaires, des sondages qui le vérifient scientifiquement, mais cela dit, il y a 30 ans, les politiques publiques avaient déjà insisté pour que nous fassions ce choix, respectivement en disant ben, peut-être qu'on construira moins d'EMS et on va pouvoir développer cela et du coup investir dans les soins à domicile. Et de ce point de vue-là, eh bien, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, pour les romans, il y a toute une palette de moyens pour rester chez soi, parce que juste décréter « vous n'avez qu'à rester chez soi et vous débrouiller », c'est un peu facile, et heureusement on a des soins à domicile très développés, dans le canton de Genève évidemment, dans le canton de Vaud et dans les autres cantons romans, mais aussi des prestataires tels que Prosenetoute, Croix-Rouge, Pro-Infirmis, Proxy qui sont les proches aidants, et d'autres qui vont pouvoir vous aider à rester. Il faut toujours adapter les techniques de prise en charge sociale ou médico-sociale à la perte d'autonomie. Et c'est ça, le fil conducteur, à mon avis, de notre heure de questions-réponses, c'est de bien comprendre quelle est la perte d'autonomie de la personne, de l'auditeur qui va nous interviewer, qui va nous questionner ce matin. Et en fonction de ça, on pourra le guider dans cette longue chaîne de prise en charge en lui disant, mais voyez, en fonction de vos problématiques, n'allez pas taper trop haut, ne tuons pas des mouches avec des canons, en proposant tout de suite l'EMS, qui est quand même la mesure, pour avoir présidé ce secteur pendant 10 ans, je le connais assez bien, qui est la mesure fantastique, mais vraiment qui est l'ultime mesure de prise en charge.
Est-ce qu'on peut donner quelques exemples de cette palette de solutions, d'options avant l'EMS ?
Oui, je me suis amusé à les relister dans ma tête. Vous allez bien, vous êtes chez vous, vous avez des contacts, vous allez avoir des amis et tout d'un coup, une pathologie arrive, vous allez voir votre médecin de famille. Ensuite, peut-être ça se dégrade, vous allez comprendre qu'il y a une problématique qui peut être somatique ou physique. À ce moment-là, il faut pas hésiter à entrer en contact avec des associations telles que Prosenetoute, qui développent une palette mais fantastique, agréable, sympathique, qui vous permet de faire du sport, de l'activité donc physique, en passant par des éléments ludiques, de la nourriture et j'en passe. Allez sur les sites internet de tous les Prosenetoute de Suisse, vous verrez ça. Puis après, malheureusement, votre situation se dégrade un peu plus. Il faut quand même se rappeler que la Suisse, et c'est la deuxième bonne nouvelle, durée de vie, 85 ans en moyenne, 84, 85 ans. On est dans le haut du peloton au niveau mondial. Mais la mauvaise nouvelle, par contre, c'est que pour ce qui est de la durée de vie en bonne santé, on n'est qu'à 74 ans. Donc, on a là un gros enjeu de prévention et les CMS viennent donc à ce moment-là, dans cette chaîne de prise en charge, assez rapidement, avec toute une série de palettes pour vous aider. Puis après, si malheureusement ça ne suffit pas encore, eh bien, il y a, vous l'avez nommé, les foyers de jour, ou centre d'accueil temporaire dans le canton de Vaud qui vous permet d'aller donc une demi-journée, un quart de journée ou une journée entière, voire des nuits, et puis retourner chez vous. Donc vous restez chez vous, mais vous avez ce moment particulier où vous êtes dans une institution ou dans un cadre bien entouré où vous pouvez soulager votre conjoint, votre conjointe ou votre famille. Puis après, si ça ne suffit toujours pas, vous avez les courts séjours qui sont aussi largement sponsorisés par l'État. Donc c'est de nouveau des politiques publiques qui viennent. Et puis si malheureusement ça n'est pas encore une solution, ben vous avez toute une série d'institutions, de proches aidants qui peuvent encore aider les familles pour essayer de les soulager. Et puis si ça ne suffit pas encore, eh bien vous avez évidemment les appartements protégés dont on va largement parler.
Un auditeur nous écoute et nous écrit « Quand nous écoutons, il prie au bon Dieu qu'il me laisse toujours le pouvoir de rester chez moi ». Voilà ce petit message avec un clin d'œil, puisque c'était par WhatsApp qu'il nous l'a écrit, au 076-206-1212 et au 0800-108-208. Nous accueillons Fiona dans le canton de Vaud. Bonjour Fiona.
Oui, bonjour. Je voulais juste parler de ce que j'ai dû faire avec ma maman. Qui avait 90 ans et puis qui conduisait, qui allait très très bien, puis tout d'un coup elle a eu un problème, voilà, pulmonaire et tout. Et puis moi je voulais pas la mettre dans un EMS, ça c'était clair. Et puis comme j'avais pris une retraite anticipée, parce que j'ai dû m'occuper de ma tante en Angleterre, enfin c'est compliqué. J'ai dû aussi, j'ai été proche aidant de deux personnes, ma tante et ma mère. Et ben moi j'ai pris le choix de faire du 24 heures sur 24 à partir de septembre, et elle est décédée, elle a fait 4 jours à Rive-Neuve et elle est décédée à Rive-Neuve. Donc elle n'a pas fait du tout de structure, voilà. Mais j'ai été aidée par des soins volants qui venaient le matin et le soir, et on pouvait faire un feedback, et puis toute la famille m'a aidée parce que les nuits étaient difficiles et voilà quoi, j'ai été aidée par ma famille.
Merci Fiona pour ce témoignage. Ah, et puis donc,
je voulais juste ajouter que les soins volants que j'ai eu à faire au CMS, et eux, ils étaient sur leur tablette, donc ils étaient pas du tout avec le patient, ils étaient sur leur tablette. Et les soins volants, eux, alors ils ont une politique, donc ça c'était il y a en 21, ils avaient une politique de, ils faisaient le feedback dans leur voiture, en fait ils écrivaient sur leur tablette dans leur voiture, mais pas avec le patient. Donc ils étaient vraiment extraordinaires et il y avait un panel d'infirmières dont une avait travaillé en Afrique, donc elle savait très bien comment faire des pansements. Il y en avait une qui avait travaillé au CHUV, il y en avait une qui avait travaillé dans un EMS. Donc le panel des infirmières qui m'ont aidée pendant 3 mois, 4 mois. Et puis aussi, oui, j'ai aussi l'infirmière, les infirmiers de fin de vie, voilà, qui m'ont aidée aussi. Donc vraiment, j'ai été entourée par les soins volants et la structure. Je ne sais pas si c'est un Renas, je ne me souviens plus du nom, c'était fin de vie. Donc voilà, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Être proche aidant, c'est difficile, quoi.
Merci Fiona pour ce témoignage. Marie Daroxa, ben voilà un exemple hein, d'une façon, une fille qui prend son temps pour se dire maintenant ben, je vais m'en occuper. Alors avec l'aide, on a entendu quand même de ce qu'elle appelle les soins volants, des soins à domicile. Et puis, je ne sais pas si ça mène un commentaire de votre part.
Ce qui est intéressant de voir, c'est de cette ouverture qu'on a maintenant par rapport à les possibilités qui existent de rester le plus longtemps possible, mais y compris avec des soins intermédiaires. Des soins palliatifs terminaux, et donc il y a des équipes dédiées, spécialisées. Chez nous, c'est une équipe spécialisée pour les soins palliatifs, mais qui se coordonne aussi avec les médecins palliatifs et puis avec toutes les dimensions éthiques et spirituelles. C'est important parce que de dire qu'on ne veut pas aller en EMS et puis qu'on peut rester à la maison, ça signifie de commencer à se préparer. C'est tout l'enjeu des directives anticipées et de pouvoir respecter la volonté des personnes.
Merci Marie. Daroxa, on se rend sur la route avec une information urgente.
Infotrafic RTS.
Prudence si vous circulez sur l'axe Lausanne-Genève. On signale des piétons sur la chaussée à la hauteur de Vernier dans les deux sens. 9h18, on va écouter un peu de musique suisse avec Pegasus et on revient juste après continuer de nous adresser vos questions au 0800 108 208. On parle de maintien à domicile, de toutes les solutions alternatives pour ne pas entrer ou le plus tard possible, en tout cas à l'EMS. 0800 108 208. Vous pouvez également nous envoyer des vocaux par WhatsApp, Signal, Telegram ou Tréma au 076 206 12 12.
I lost the best thing I ever owned, the greatest love that I've ever known. It was more than I ever could dream. From a butterfly to a stone, I got frozen to the bone. I thought we're one, we were born, we were a team. We used to laugh at people who'd say can a heart break? How much can a soul take when you lose your soulmate after all these years? How long can I go on saying there is no wrong, acting like I'm all strong, holding back my tears? Oh, how much more can I take of this heartache? How much more can I take till my heart breaks? Setting out into the great unknown, because this house is not a home, just a shell of a time that has gone. Facing ruins all alone, like a king that's been overthrown, I shall walk with my back towards the sun.
can a
How much can a heart break? Noah Veragout et son équipe qui sortent l'album Twisted Heart Clubs, un point final à la version actuelle de Pegasus. 9h22, on continue notre guichet interactif avec aujourd'hui pour thème Maya Chollet, les alternatives à l'entrée en EMS. Le numéro est gratuit, 0800 108 208 pour poser vos questions à nos deux invités. Marie Daroxa, directrice générale de l'institution genevoise de maintien à domicile, l'IMAD, et Tristan Gratier, qui est directeur de Procénectutévo, président des centres médico-sociaux vaudois et ancien président des EMS suisses. On a également reçu un message vocal au 076 206 1212. C'est Jean-Pierre qui nous envoie ceci.
Pour envoyer vos messages vocaux par WhatsApp, Signal, Telegram ou Tréma, 076 206 12 12.
C'est une bonne idée que de pouvoir maintenir les gens le plus longtemps à domicile et de baisser le nombre de lits en EMS. Actuellement, le canton de Neuchâtel a les hôpitaux surchargés par des personnes en attente d'EMS. Que fait-on donc? Jean-Pierre de Cernier, merci pas d'avance. Au revoir, bonne journée.
Merci pour cette question. EMS surchargé, hôpitaux qui du coup font tampon, Marie Daroxa.
Ah, c'est une excellente question et c'est une situation qu'on retrouve dans tous les cantons. C'est ce qu'on appelle les personnes en attente de lit et qui surchargent effectivement les hôpitaux. Eh bien, pour en avoir encore discuté pas plus tard que hier avec le directeur général des HUG, le meilleur moyen de pas être en attente, c'est de pas rentrer à l'hôpital. Et ça, c'est tout l'enjeu des dispositifs qui sont mis en matière de maintien et soins à domicile. C'est d'éviter à tout prix les hospitalisations, c'est de travailler sur les urgences communautaires, c'est d'avoir un dispositif de détection et de prévention. Et là, c'est vraiment là-dessus qu'on peut faire la différence.
Mais il n'y a pas moyen de sortir, parce qu'on peut aussi avoir besoin d'entrer à l'hôpital, mais ensuite, quand ça va un peu mieux, on conseille l'EMS, mais ce n'est pas pour tout de suite parce qu'il n'y a pas de place. On doit rester à l'hôpital, même si on n'a plus besoin de soins aigus.
Alors, le problème, c'est quand, au niveau médical, les hôpitaux décrètent que le retour à domicile est impossible compte tenu de la situation de la personne. Et puis après, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte et Monsieur Gratier pourra corroborer, c'est qu'il y a des éléments financiers qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire que les EMS, ça coûte quand même un certain prix. Quand les personnes ne sont pas au bénéfice des prestations complémentaires, elles prennent ça sur leur patrimoine. Il y a des enjeux administratifs, il y a des enjeux aussi de choix. Souvent, les personnes souhaitent aller dans tel ou tel EMS et donc il y a tout un processus de régulation qui doit se faire. Donc nous, ce qu'on essaye de faire au niveau du maintien à domicile, c'est d'être plutôt dans la prévention et d'éviter un maximum d'hospitalisation à travers des structures aussi intermédiaires, comme les unités d'accueil temporaire, comme les foyers de jour, pour essayer de faire toujours de la détection et de la prévention, plutôt que d'être dans des situations dans lesquelles on arrive à l'hôpital, notamment via les urgences. C'est différent quand c'est de l'électif ou une opération, mais il faut absolument trouver le moyen de désengorger les urgences des hôpitaux et éviter que les personnes se rendent à l'hôpital.
On a reçu une question de Michel par email qui nous demande « Pour l'aide à domicile, faut-il une assurance complémentaire? Si oui, les héritiers doivent-ils rembourser cette complémentaire ?» Tristan Gratier.
Non, en fait, les soins à domicile tels qu'ils sont aujourd'hui voulus par les politiques publiques sont ouverts à tout le monde. Et c'est ça qui est vraiment la deuxième bonne nouvelle, c'est que vous pouvez en bénéficier et à tous les âges de la vie. Alors, on focalise évidemment avec le vieillissement de la population, mais l'IMAD, la VASAD, donc les soins à domicile des deux cantons, Genève et Vaud, mais la même chose sur les autres cantons, prennent les gens depuis la naissance. On a d'ailleurs toutes les femmes qui ont accouché d'un enfant vont se voir contactées par les CMS MS. Et cette prise en charge, elle est très large, elle est très démocratique, aussi sous un plan financier, et prise en charge donc par les politiques publiques, par l'argent public, donc via la fiscalité, et aussi par les assurances maladies, en fonction des modalités que chacun connaît avec la franchise et la quote-part.
Là, Michel nous demande pour l'aide à domicile, mais est-ce que si, par exemple, on doit aménager son logement, mettre des barrières, un élévateur pour un fauteuil roulant ou d'autres aménagements comme ça, est-ce que ça, c'est pris en charge?
Alors, pour l'instant, en tout cas, c'est pas pris en charge par la LAMAL. Procénectute intervient parfois sur la prise en charge de certaines adaptations de moyens auxiliaires. En ce qui concerne Genève et l'IMAD, nous avons des ergothérapeutes qui font une évaluation justement des barrières architecturales. Alors, la plus fréquente, c'est la barrière de la baignoire qu'il faut transformer en douche. Mais ça peut être des seuils de porte. Et dans ce cas-là, en fait, pour les personnes que nous suivons, nous avons mis en place un fonds pour pouvoir financer ces adaptations pour que le maintien à domicile continue à être possible. Donc en fait, on prend en charge tout le dispositif pour aider la personne à rester à domicile depuis l'évaluation de ce qu'il faut faire comme travaux jusqu'au financement.
Tristan Gratier, comment ça se passe l'aménagement des logements et le financement de l'aménagement des logements sur le canton de Vaud?
Alors, grand sujet sur lequel Procénectute travaille depuis fort longtemps. Ça fait depuis les années 60 que nous avons des logements protégés. Donc, c'est pas en soi une nouveauté, les logements protégés. Il faut continuer à en construire, au même titre que par rapport à notre auditeur tout à l'heure qui laissait le WhatsApp. Il faudra continuer à construire des EMS hein, face au vieillissement de la population. Il faut pas croire que c'est pas possible de ne pas le faire. Il faut partir du principe que on va pas arriver, malheureusement, à construire autant d'EMS qu'on veut, autant de logements protégés qu'on veut. Donc, le gros challenge, en tout cas pour Procénectute, c'est de se dire comment on va aménager le logement de monsieur, madame, tout le monde pour qu'il reste de nouveau le plus longtemps possible. Grâce aux CMS, comme l'a dit Marie Daroxa, grâce aux ergos, on a un système qui fait que l'ergo va analyser la capacité de la personne à se mouvoir, à vivre chez elle, et en fonction de ça, de pouvoir déceler ce qui lui manquera. Rehausser les toilettes, casser la baignoire pour en faire une douche et ainsi de suite. Dans le canton de Vaud, alors malheureusement c'est pas la même chose dans les autres cantons romands, le canton de Vaud vient de voter une mesure, le Grand Conseil l'a décidé, de 3000 francs par personne et 6000 pour les couples à partir de 2026, qui va faire que sur condition évidemment d'une analyse d'une ergo, ben justement Procénectute qui va engager une ergo avec, nous avons des architectes, on sera en capacité de proposer un peu clé en main un système qui fera que il y aura une subvention de 3000 ou de 6000 pour transformer votre appartement.
0800 108 208, on se rend du côté de Morges avec Marie qui est en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, merci pour votre émission. J'avais tout près de mes parents qui sont morts très âgés. Je voulais dire deux, trois choses qui sont importantes à savoir. C'est que l'aide qu'on leur apporte, elle est très progressive. À mesure qu'ils deviennent plus impotents, il faut augmenter l'aide. Donc, chaque fois qu'on a trouvé une solution, eh ben, elle est pas pérenne. Hein. Et puis, après, on peut donc aussi avoir recours au CMS, au cas de nécessité. Et puis, si on engage soi-même du personnel, pour que nos moyens nous le permettent, mais c'est pas plus cher qu'un EMS d'avoir quelqu'un à domicile qui s'occupe de il faut bien le choisir pour qu'il soit agréable et tout ça, mais les parents ils peuvent rester. Mes deux parents avaient besoin d'aide et là le fait qu'ils ont une personne après deux à domicile, c'était pas plus cher que l'EMS, hein. Et plus disons si c'est prescrit par un médecin, c'est déductible des impôts. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore? Si vous avez la chance d'avoir plusieurs enfants, ben, ils peuvent s'organiser entre eux, pour autant qu'ils s'entendent, ce que nous avions fait, nous on était beaucoup, et on se partageait les week-ends. Et puis, il ne faut pas oublier le sécutelle non plus. Ce qui est toujours utile pour les personnes âgées sont seules pour la nuit, par exemple. Souvent, ils peuvent rester seuls la nuit, mais ils sont peut-être pas très à l'aise avec les téléphones portables. Quoique maintenant, de plus en plus, ils ont des téléphones, mais avant, disons, le sécuritaire était vraiment nécessaire.
Merci Marie, on va essayer de reprendre un peu tout ça avec vous Marie Daroxa. Alors d'abord, ce qu'elle dit au début, cette auditrice, c'est que bah, finalement les solutions qu'on trouve, elles font que d'évoluer parce que à peine on a stabilisé la situation, bah, y a des nouveaux soucis et il faut changer les aides dont on a besoin.
C'est la réalité du maintien à domicile et l'équipe, le travail des équipes de proximité, des infirmiers, infirmières référentes qui font ça au quotidien. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on fait une rentrée scolaire tous les matins dans l'organisation des visites. On s'adapte jour après jour et c'est tout ce génie de proximité justement et qui fait la noblesse aussi du maintien à domicile, c'est de s'adapter aux réalités avec une évaluation qui est personnalisée et chaque fois rechercher les meilleurs moyens de maintenir l'autonomie. Alors, l'auditrice a mentionné énormément de palettes. Elle a évoqué le CQTEL qu'on appelle à Genève le téléalarme. C'est assez typique des mesures sur lesquelles, à un moment donné, il faut trouver un équilibre entre le besoin de sécurité des proches aidants, parce que c'est souvent ça le problème des proches aidants, indépendamment de l'épuisement. Ils veulent être certains que leur proche est bien pris en charge. Et puis le besoin d'autonomie et puis de qualité de vie des personnes qui sont finalement nos patients pour les suivre avec une palette de prestations. Mais c'est clairement une question de gradation et c'est très important de le comprendre pour dédiaboliser les EMS qui sont une excellente solution, mais dans des cas qui le nécessitent.
Merci Marie Daroxa et Tristan Gratier. Vous êtes avec nous encore une demi-heure pour répondre au 0800 108 208. Profitez peut-être du titre qui vient pour le faire. Voici Calogero.
Finalement, une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'en effet, c'était mieux après. Combien d'amour raté par heure, combien d'instants loupés par peur, parce qu'on ne se sent jamais prêt à tout remettre au lendemain. Les mots, les courriers ou les trains, on devient nos propres barrières. À force de trop hésiter, à force de tout éviter, l'occasion va passer, on s'empêche d'avancer. Finalement, une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'en effet, c'était mieux après. La peur est une sale habitude qui fait du pire une certitude. De tous nos projets, des regrets. Le doute est une contrefaçon qui déguise les possibles en non et tous les plus tard en jamais. À force de trop hésiter, à force de tout éviter, l'occasion va passer, la passion va casser. Et finalement tu t'es lancé sous la vie, tu l'as embrassé. C'était mieux après. Demain est un joli pays. À chaque minute tu le franchis. Et chaque seconde est une frontière. La nostalgie est une manie qui fait d'hier un aujourd'hui. Elle met ta vie en marche arrière. Et on se noie dans des verres d'eau. À trop tourner autour du pont. Aperçu qu'en effet, c'était mieux après.
Ta vie tu l'as recommencé. Et
c'était mieux après. Oui, finalement, tu t'es lancé. Ta vie, tu l'as recommencé. Et c'était mieux après.
Calogero, c'était mieux après. 9h37, retour au guichet dont on parle.
Le guichet dont on parle, 0800 108 208.
Nous parlons des alternatives à l'entrée en EMS, notamment quand l'âge avance, mais pas que, hein, on l'a dit, il y a d'autres aussi raisons de parfois y entrer, mais on n'est pas vraiment obligé dans tous les cas. C'est ce qu'on apprend avec Marie Daroxa, qui s'occupe de maintien à domicile dans le canton de Genève, et Tristan Grattier, directeur de Procénec Tout Evo. Maya Chollet, on reçoit passablement de questions par écrit, également par vocal. Voici par exemple celui de Dominique au 076-206-12-12.
Bonjour, je suis dans la situation où ma maman, qui a 85 ans, était atteinte d'une macula, et cette macula est arrivée quasiment au bout, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus lire un livre, elle ne peut plus regarder la télévision correctement. À part ça, donc, elle a tous les ennuis d'une personne vieillissante, mais elle est en forme, elle a sa mobilité, elle a ce qu'il faut, mais elle a ce problème de ne plus y voir, de ne pas reconnaître les gens dans la rue, de devoir être vraiment tout près ou entendre la voix pour reconnaître les gens qui l'entourent, moi y compris. Donc, je ne sais pas très bien, la maintenir à la maison, c'est ce qu'elle voudrait, ce qu'on voudrait pour elle, mais par contre, c'est pas des soins CMS qu'on peut demander comme ça, parce qu'il n'y a pas de soins à donner particulièrement, mais que peut-on faire dans le cadre d'une personne comme ça, qui est active, qui est indépendante, qui vit sa vie, qui vivait en tout cas sa vie normalement, mais qui se retrouve tout à coup au bord de la cécité. Donc la macula a l'avantage de ne jamais rendre aveugle, mais avec ce gros problème de ne pas y voir correctement. Merci de votre prochaine réponse et bravo pour vos émissions.
Merci à vous Dominique, du côté de Chambly. Marie Daroxa.
Oui, merci pour cette question parce qu'elle montre bien à quel point le maintien à domicile doit être aussi dans une logique d'éviter absolument l'isolement social et toutes les mesures qui peuvent être prises pour que les personnes ne se renferment pas, qu'elles continuent à avoir une vie dans une communauté de proximité. Et là, c'est toutes les prestations des associations de proximité. Alors évidemment, tout le programme d'activité de Procénec Tout Evo, mais aussi d'organisations comme la Croix-Rouge, en tout cas à Genève, pour proposer un certain nombre de possibilités de lecture à domicile aussi. Mais c'est un point qui est très important. Le maintien à domicile ne doit pas être synonyme d'isolement social. Au contraire, c'est très très important de maintenir les liens en proximité et d'avoir cette vie pour pouvoir continuer à avoir cette belle qualité de vie.
Nous avons reçu une question d'un auditeur qui nous dit « Dans notre village, de petits immeubles d'appartements ont été construits. Ces appartements sont très fonctionnels pour des personnes âgées ou en situation de handicap. Les EMS de la région ne sont pas associés, par exemple, pour faire des structures d'accueil ou des logements adaptés. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envisager une initiative en partenariat entre les EMS et puis la construction de logements adaptés ?» Tristan Grattier.
Alors, notre auditeur doit se détromper, ça se fait beaucoup. Donc il y a énormément d'EMS qui ont développé cela. C'est même d'ailleurs une majorité des logements protégés qui sont en main d'EMS. Procénec Tout Evo en a dans le canton de Vaud plus de 200. Donc on a ce domaine-là que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui est important de comprendre pour nos auditeurs, c'est qu'il faut à un moment donné se mettre en tête presque une date butoir en se disant peut-être qu'arriver à 75 ans ou à 80 ans, je dois faire un bilan de ma santé, de mon psychisme ou de mon conjoint, ou inversement l'autre le fera, et de faire un choix, de se dire est-ce que l'appartement dans lequel je vis, qui est généralement un ancien appartement où on est peut-être depuis 30 ans, 50 ans, qui coûte pas cher, qui a peut-être même 4 pièces parce qu'il y avait des enfants. Et finalement, est-ce qu'on a la capacité financière de le quitter, d'aller dans un généralement plus petit appartement qui paradoxalement va me coûter plus cher parce qu'il est plus neuf. Et de ce point de vue-là, ben, c'est un choix qu'il faut faire en analysant bien ça et en anticipant sa perte d'autonomie. Et c'est à ce moment-là qu'on peut aussi évaluer l'opportunité d'aller justement en logement protégé. Dans le canton de Vaud, ils sont conventionnés pour certains avec l'État, et ça s'appelle des LADA, logements adaptés et accompagnés, et qui sont pris en charge par les prestations complémentaires. Donc de ce point de vue-là, pour les gens qui auraient des soucis financiers, eh bien, il y a une réponse qui est très solide et qui leur permet d'y aller sans crainte. Pour les personnes AVS ou AI. Et il faut passer, on a peu parlé aujourd'hui, par les bureaux régionaux d'information et d'orientation, parce que dans tout ce parcours qu'on évoquait, cette chaîne de prise en charge, il y a des acteurs très forts, en tout cas dans le canton de Vaud, qui sont ces bureaux régionaux d'information et d'orientation.
Merci Tristan Gratier, 0800 108 208. Nous avons Eric qui est en ligne depuis Doubs, bonjour.
Oui, bonjour. Écoutez, voilà, j'ai 92 ans et je crois qu'il y a quelque chose que la plupart des gens qui ont besoin d'infirmières ne savent pas, c'est que ma belle-fille a fait le nécessaire pour pas que je reçoive ici le CMS, qui est une défilée constante de différentes infirmières qui viennent me soigner, mais elle a fait appel à une infirmière indépendante qui s'occupe de moi, et c'est toujours la même qui vient actuellement. Elle est même venue à moi, j'ai des problèmes avec les yeux, elle est même venue 4 fois par jour à un moment donné, maintenant elle vient plus que 2 fois, je peux me mettre des gouttes à midi et à 4 heures, et elle est également payée exactement de la même manière par les assurances. Elle est donc, elle connaît toutes mes habitudes, c'est toujours la même. Elle sait comment je prends le café le matin, elle sait comment je m'habille, elle sait comment. Elle s'occupe de moi intégralement, elle connaît tout de moi. En somme, elle est là et le matin et le soir. Et c'est une véritable formidable d'avoir toujours la même personne qui connaît exactement vos habitudes, plutôt que d'avoir un défilé d'infirmières à qui il faut expliquer chaque fois qu'il y a une nouvelle qui vient, comment vous allez, où dans quel tiroir se trouve telle et telle chose, etc., etc. Mmh. Et actuellement, je sais, il y a une grande page de reportage dans le 24 heures qui signalait, il y a à peu près une dizaine de jours, qu'il y a actuellement 400 infirmières indépendantes à disposition qu'on trouve facilement sur Internet sous infirmières indépendantes et qui sont prêtes à venir chez vous, et c'est toujours la même qui est là, qui s'occupe de vous, et non pas un défilé constant de fermières différentes, ce qui est malheureusement le cas toujours avec les CMS. Voilà.
Merci.
J'ai actuellement 92 ans et j'ai une infirmière qui vient le matin et le soir, toujours la même, depuis à peu près 2 mois. Voilà.
Ben parfait, merci beaucoup. On a bien compris, Eric, et c'est vrai, c'est souvent quelque chose qui revient quand on parle de maintien à domicile, Marie Daroxa, ce problème du renouvellement d'équipe, qui a bien sûr ses raisons aussi. Les infirmières indépendantes, c'est aussi un réseau qui fonctionne.
Tout à fait, et on travaille clairement en partenariat avec les infirmières indépendantes et avec d'autres organisations. L'idée, c'est de trouver des complémentarités et puis de comprendre que, par exemple, et je souhaite que le monsieur qui a posé cette question et cet élément-là sur les infirmières indépendantes, et que je remercie, j'espère qu'il pourra rester très longtemps avec simplement 2 passages par jour. La réalité, c'est que quand vous devez passer tous les jours, 7 jours sur 7, avec 3 ou 4 passages par jour, il y a simplement une réalité, c'est que les personnes peuvent pas travailler 7 jours sur 7 et toute la journée sans vacances, sans se former, sans se reposer. Donc je pense qu'il faut vraiment pas opposer les systèmes. On évoquait avant les appartements protégés, les EMS. Il faut pas opposer les systèmes. Il faut essayer de trouver des complémentarités intelligentes, et souvent c'est en fonction des besoins de la personne et en fonction des ressources qu'il y a en proximité. Nous, typiquement, avec les 30 immeubles encadrement pour personnes âgées, ça fait à peu près 1600 appartements sur Genève qui sont exploité par IMAD. On a des partenariats avec des EMS, on a des partenariats avec d'autres structures. C'est ça qui fait la richesse, c'est d'être agile et flexible avec les ressources de proximité.
On parlait tout à l'heure des logements protégés. On a reçu une question d'un auditeur qui nous demande qu'en est-il des listes d'attente, et puis au bout de combien de temps on peut espérer un logement protégé.
Alors ça, c'est en effet un des sujets qu'on a le plus fréquemment à Prosenectute, c'est comment essayer de trouver ces logements protégés. Aujourd'hui, il n'y a malheureusement pas de solution très facile. Il faut chercher dans sa région. Il n'y a pas de liste d'attente à proprement parler. Le canton, dans le canton de Vaud, par exemple, on est en train de réfléchir à pouvoir créer un système où il y aurait des listes d'attente pour les logements adaptés et accompagnés, donc qui sont conventionnés, mais tous les autres logements, et ça c'est quand même important de le dire à nos auditeurs, le terme logement protégé n'est justement pas protégé. Donc n'importe qui tout d'un coup veut louer une chambre, puis qui dit « mais moi j'ai un logement protégé chez moi, vous pouvez venir », attention, attention, il y a quand même de ce point de vue-là des soucis, et il faut bien être attentif à ce qu'est finalement un logement adapté et accompagné. Il doit être architecturalement adapté, et puis accompagné veut dire qu'il y a une référente sociale qui va soit habiter dans l'immeuble en question, soit pouvoir s'y rendre très régulièrement, et qu'il y ait un local communautaire avec de l'animation et cet accompagnement social.
Marie Daroxa, c'est pas la même chose sur Genève?
Non, sur Genève, le label immeuble encadrement pour personnes âgées, justement, impose un certain nombre de dispositifs. Alors, gérant social, veilleur de nuit, sécurité embarquée, absence de barrière architecturale, espace communautaire, et donc effectivement ça permet aussi de clarifier les exigences qu'on peut avoir pour ce type d'appartement.
Et là, ça se passe comment avec les listes d'attente?
Alors, les listes d'attente, c'est un peu à géométrie variable. C'est clair que les immeubles qui sont récemment construits, qui sont les plus beaux, les plus jolis, etc., on a tout de suite un an de liste d'attente. En plus, comme les personnes viennent d'emménager, elles vont pas partir tout de suite. Nous, c'est seulement 10% des personnes qui habitent en immeuble encadrement pour personnes âgées qui se rendent finalement en EMS. Ça veut dire que 90% font tout leur parcours de quatrième âge à domicile. Donc évidemment, ça restreint. Pour d'autres, il y a des appartements qui sont disponibles. On retrouve tout ça sur, en tout cas à Genève, sur le site de IMAD. Après, le problème, c'est de savoir typiquement, est-ce que alors c'est toujours le problème des pièces entre le canton de Vaud et le canton de Genève. Est-ce que vous voulez un studio? Est-ce que vous voulez un appartement avec une chambre fermée? Ce que nous recommandons. Et du coup, les disponibilités sont variables.
0800 108 208, il reste une dizaine de minutes pour contacter notre guichet. On se retrouve juste après Louis Chédid, que voici sur RTS Première.
Dans la réalité, je me sens en exil, trop souvent ballotté, pantin au bout d'un fil. Alors j'ai inventé un endroit plus tranquille, un jardin secret comme une terre d'asile. Sur le bruit et la fureur de ce monde en folie, je mets un peu de couleur, un soupçon d'embellie. Rêve, rêve, changer d'air, changer d'âge. Rêve, rêve, la tête dans les nuages. Rêve, rêve, de l'aube au crépuscule. Rêve, rêve, marcher sur la lune. Quel que soit le décor, rêver, rêver encore. La triste vérité, ça peut faire mal au cœur. Toujours préféré la place du radiateur, tout au fond de la classe quand mon regard faisait du tableau noir en face un écran de ciné. Conserver ce pouvoir que l'on avait hier, s'inventer une autre histoire et d'y croire dur comme fer. Rêveur, rêveur, changer d'air, changer d'âge. Rêve, rêve, la tête dans les nuages. Rêve, rêve, de l'aube au crépuscule. Rêve, rêve, marcher sur la lune. Profession chercheur d'or. Rêve, rêve encore. Rêve, rêve. Bye.
rêveur, rêveur, Louis Chédid à 9h51, suite et fin de notre guichet interactif dont on en parle, où il est question des alternatives à l'EMS. Maya Chollet, nous avons Jacqueline au téléphone au 0800 108 208. Jacqueline de Genève, bonjour.
Bonjour, merci infiniment pour votre émission que j'écoute tous les matins. Alors je voulais vous dire, j'ai une chance, j'ai 86 ans et j'ai mon fils qui est encore à la maison. Mais je ne vais pas le garder, je sais très bien que j'avance. Mais quelque part, ça me motive pour faire les courses, pour préparer les repas. Et quand je répète un peu les choses, il me reprend, il me gronde. Et même si j'ai ma dignité, mais ça me fait du bien parce que je m'énerve un peu contre mon fils en disant que pour le moment, je déraille encore pas. Mais voilà, alors je voulais souhaiter qu'il y ait des personnes qui aient la chance d'un fils ou une fille sans obligation, mais qui restent à la maison. Alors voilà, c'est surtout pour le remercier aussi.
Merci à lui. Oui, d'accord, le message est transmis, Jacqueline. Oui. Joli témoignage, effectivement, de devoir continuer de s'occuper de son fils et puis d'avoir un peu des petites taquineries, parce qu'on se connaît bien avec l'âge qui avance entre un fils adulte, bien sûr, qui peut rester. On va prendre maintenant une question qu'on a reçue au 076-206-1212, un vocal de Sabine, qui est une Suissesse établie au Maroc.
Bonjour. Je suis en train d'écouter votre émission. J'habite au Maroc, j'ai 80 ans, j'habite seule. Est-ce que j'aurai la possibilité de rentrer en Suisse pour aller dans un EMS? J'ai pas d'assurance maladie.
Merci Sabine pour cette question. Grande question, c'est vrai, partir à l'étranger à la retraite, parce qu'on n'a pas forcément... je dis ça parce qu'on a fait un guichet là-dessus en fin d'année dernière, c'est peut-être pas le cas de Sabine, mais souvent, beaucoup de retraités vont à l'étranger pour vivre leur retraite dans des conditions financières acceptables, mais il y a toujours ces moments où on pense quand même revenir pour les soins en Suisse. Tristan Grattier, dans son cas-là, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre?
Grande question qui dépend de beaucoup de facteurs qui seraient trop compliqués à évoquer ici. Ce qu'il faut, c'est ne pas se gêner pour aller consulter sur les sites des différents cantons qui nécessitent... La rentrée en Suisse, elle est citoyenne suisse, elle y a droit. Ça, je la rassure, il n'y a pas de souci. Elle sera prise en charge, c'est la deuxième bonne nouvelle, il n'y a aucun doute. Maintenant, j'imagine qu'il y aura des éléments financiers. Si elle a une petite fortune, eh ben, elle sera prise en compte. Et ça, c'est trop complexe d'y répondre ici. Allez voir sur le site Info Senior et Info Senior Vaux, ces deux sites internet très bien faits qui sont faits par ProSenectute, qui répondent très finement à ces questions ou qui vous amènent toute une foultitude de réponses à celles-ci et toutes celles qu'on a évoquées ce matin. Mais qu'elle se rassure, elle sera de toute façon bienvenue en Suisse, ça, il n'y a aucun doute.
On a reçu une autre question de Brigitte qui nous demande quelles sont les solutions abordables pour l'aide de nuit. Comment on peut trouver des solutions pour l'aide de nuit ?
Marie Daroxa.
Oui, alors il y a plusieurs solutions. Après, quand on parle de l'aide de nuit, ça couvre différentes choses. C'est la veille de nuit, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément de quelqu'un qui soit formé, mais qui peut prendre le relais s'il y a des demandes, typiquement pour accompagner la personne aux toilettes ou si elle a besoin de quelque chose, versus il y a des soins qui doivent intervenir pendant la nuit. Donc en tout cas, la meilleure solution dans ces cas-là, c'est de pouvoir passer par les équipes de maintien à domicile qui font une évaluation. Si la prestation peut être faite par l'équipe de maintien à domicile, elle sera organisée. Puis autrement, on peut réorienter sur d'autres organisations qui font ce type de prestation.
0800 108 208, on prend un dernier téléphone. C'est Madeleine qui est à Bussigny. Bonjour.
Bonjour. Excusez-moi. Merci pour votre émission. Je voudrais demander, j'habite dans un appartement aménagé et je vais une fois par semaine au 4. Et le 24 décembre, j'avais rendez-vous depuis très longtemps chez un médecin. Et ma foi, je ne suis pas allée au 4, mais on me facture quand même cette journée au 4. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi? On m'a dit que c'était la fondation qui avait décidé comme ça. Est-ce que c'est juste?
Alors, Tristan Grattier.
C'est fort possible que, en effet, la fondation qui organise ces centres d'accueil temporaire ou centres d'accueil temporaire, qui est à part ça une très belle solution qui existe évidemment les autres cantons. Marie Daroxa en a parlé, foyers de jour qui vous permettent d'aller une demi-journée ou une journée entière, voire même des nuits. Hein, on en parlait tout à l'heure, en faire le lien avec les courts séjours. Et c'est facturé très modestement, je dois dire, quand même. Alors évidemment, chaque franc compte, et je comprends que madame se pose cette question. C'est possible, vous savez, que c'est comme si vous n'allez pas chez votre médecin. Au bout d'un moment, les médecins qui se voient embêtés par des gens qui ne viennent pas, eh bien, qu'il y ait eu la même décision qui soit prise pour les centres d'accueil temporaire, quelqu'un qui ne vient pas, eh bien, il doit pouvoir étayer ou argumenter la raison qui a fait qu'il n'a pas pu venir. Et j'imagine qu'il y aura une compréhension de la part du CAT, si c'est une bonne raison.
Nous avons ici dans la liste de questions un immense nombre de questions qui viennent de proches aidants, qu'on ne pourra pas tout aborder ce matin, mais quels conseils on peut donner à tous ces proches aidants qui nous écoutent? C'est un travail à 100% parfois d'être proche aidant. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller, Marie Daroxa?
Alors, je suis moi-même proche aidante, une maman de 92 ans. La première chose, c'est d'accepter de l'aide. Et de se reconnaître comme proche aidant, parce que souvent, c'est le problème, c'est que on charge. Et puis, c'est difficile aussi d'accepter de l'aide extérieure, des sentiments de culpabilité. Donc, déjà, se reconnaître comme proche aidant. Ce que souvent, les proches aidés ne se rendent pas compte. On a une anecdote, chez nous, on avait fait une étude sur les besoins des proches aidants. On avait questionné des proches aidés, nous avaient dit, non, mais moi, j'ai pas de proche aidant, j'ai ma fille. Donc, déjà, il y a cette reconnaissance. Et puis après, la capacité à accepter de l'aide, ça c'est la première chose, de pas s'épuiser, de pas culpabiliser, et puis de faire recours à des prestations qui existent. À Genève, on a une ligne qui s'appelle Proche Info aussi, qui vient en soutien pour toute une série d'informations et d'orientations. Ne pas hésiter à appeler et à demander de l'aide.
Tristan Gratier, un dernier mot aussi, peut-être sur les proches aidants.
C'est aussi surtout de savoir s'écouter à un moment donné. Madame disait un peu en rigolant que des fois son fils la grondait. Son fils est peut-être déjà un peu un proche aidant. Et quand on arrive dans une relation qui peut s'envenimer avec, on en a peu parlé, mais c'est la question de la santé mentale, eh bien, il y a une sonnette d'alarme à tirer et les professionnels font un travail remarquable dans les EMS et les CMS. Bravo à eux.
Voilà, merci. Donc, vous n'êtes pas seul, proche aidant. Retenez ça aussi. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions de notre public. Tristan Gratier, directeur de ProSénec, tout est vaux, président des centres médico-sociaux vaudois. Et Marie Daroxa, directrice générale de l'institution genevoise de maintien à domicile. Vous répondez à l'invitation de Maya Chollet. Demain, autre guichet, les sports d'hiver, l'entretien et sécurité du matériel.
On en parle? Yves Alain Cornu.
Et dans un instant, Lucia Silig avec CQFD, vous allez faire pas mal de géographie.
Oui, on commence par une bande dessinée qui retrace 10 000 ans d'histoire de la géographie, parce qu'il paraît que même dans les peintures rupestres, dans les grottes préhistoriques, on trouve des choses qui ressemblent à des cartes du ciel. Et puis dans un deuxième sujet, on ira explorer des endroits tellement bizarres qu'on a du mal à croire qu'ils sont sur Terre.
Incroyable, on se réjouit d'écouter ça juste après les infos de 10h que voici sur RTS Première.